Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale avec EDT NJ.
Il est 7h30, c'est le journal local, tout de suite les titres avec Valentine Bluet. Bonjour Valentine.
Bonjour Marco, bonjour à tous. Nouveau blackout de 2 heures hier à Tahiti, moins de 2 mois après la dernière coupure. Cette fois-ci, il s'agit d'une erreur humaine lors d'une opération de maintenance. Suite et fin, ou presque, du procès en appel d'Erm Orea, les avocats de la défense ont demandé hier la relaxe générale. Le délibéré sera rendu en janvier prochain. Rencontre tendue hier entre le pays, le président du CIVEN et les associations de défense des victimes du nucléaire. Et puis, déception pour la jeune chanteuse Tina Ley qui participait hier à la demi-finale de l'émission La France a un incroyable talent.
On démarre ce journal avec ce nouveau blackout survenu hier matin à Tahiti.
Vers 9h40, les rédactions ont reçu un communiqué de EDT NJ informant qu'un incident s'était produit sur le réseau de Tahiti provoquant une rupture temporaire de l'alimentation. À 10h30, EDT NJ annonçait sur sa page Facebook que l'intervention immédiate des équipes avait permis le premier retour d'alimentation en moins d'une heure. Aux alentours de 10h50, l'agglomération de Papeete a été réalimentée de Punaoya jusqu'à Pirae, ainsi que Paea et Papara. À 11h30, EDT NJ informait finalement que l'électricité était revenue sur la zone de Tahiti. On écoute les explications de Yann Wolf, directeur des exploitations chez EDT NJ.
Nos équipes réalisaient une opération de maintenance. On fait ce type d'opération 800 à 900 fois par an. Et ce matin, il y a eu une erreur humaine, ce qui fait qu'on a créé accidentellement un court-circuit. En fait, là, le court-circuit est très fort, donc ce qui fait que ça met en panne la centrale de la Punaru. Et quand les groupes de la Punaru s'arrêtent, ben, l'île est dans le noir. Et quand on est en blackout, ben, on a une procédure de redémarrage depuis blackout qui nous prend entre 1h30 et 2h. Donc redémarrage des 2 centrales thermiques, redémarrage de l'ensemble des centrales hydroélectriques de Maramanui, puis après reconstruction des réseaux de transport, puis de distribution.
Des explications recueillies par Pascal Bastianaggi.
Le procès en appel d'Erm Orea s'est clôturé hier avec les plaidoiries de la défense.
Des avocats de la défense qui sont restés sur le même constat, le câble n'a pas pu se rompre en vol. La défense de l'ancien représentant du groupement pour la sécurité de l'aviation civile estime que la certitude du lien de causalité fait défaut et que, je cite, ce bénéfice du doute doit innocenter les prévenus. La défense a d'ailleurs rappelé à la cour que les peines ne sont pas censées être mesurées à l'aune de la douleur des victimes. Tous estiment que la relaxe générale doit être prononcée faute d'éléments probants sur la cause du crash. Écoutez les explications de Maître Quinquis au micro de Vaite Urari Pambra.
Pour qu'il y ait une infraction pénale d'homicide involontaire, il faut qu'il y ait une infraction. S'il n'y a pas eu d'accident par le biais de la rupture du câble en vol, par définition, il n'y a pas d'infraction et il n'y a pas de poursuite possible. Mieux encore, dans ce domaine, il faut rapporter la preuve d'un lien de causalité certain et que la causalité soit au moins indirecte avec une faute qualifiée. Or, ici, vous n'avez, c'est le moins que l'on puisse dire, aucune certitude quant à la réalité de la faute ou de la négligence, donc quant à la réalité de ce lien de causalité.
Même constat du côté de Maître Le Guy ou avocat de Erm Orea.
Malheureusement, je sais que c'est très difficile pour les familles de ne pas connaître une cause, de ne pas savoir le détail. Mais je pense que malheureusement, ça fait partie de ces accidents où, à défaut d'avoir des boîtes noires complètes, c'est-à-dire pas seulement un enregistrement, mais un enregistreur des données techniques du vol, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. La seule chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que ce câble n'a pas pu physiquement se casser en vol dans l'état où il était.
Le délibéré sera rendu le 23 janvier prochain.
Réunion tendue hier entre les associations anti-nucléaires et le président du CIVEN.
Le gouvernement et les parlementaires polynésiens étaient présents, ainsi que les associations Morurua et Tatou, Tamari'i Morurua et 193, les groupes Tahoe'a et Tavini et les membres du département de suivi des centres d'expérimentation nucléaire. L'association 193, représentée par Frère Maxime, a quitté la réunion dès le début en signe de protestation contre les actions du président du CIVEN, Alain Krisnart. 193 estime que c'est une arnaque intellectuelle d'affirmer qu'il y a plus de dossiers indemnisés en Polynésie. L'association dénonce également le projet de centre de mémoire financé par le pays et non par l'État. Le député Moetei Broderson rappelle que le CIVEN ne fait qu'appliquer la loi Morin et que c'est au niveau de l'exécutif qu'il faut viser pour faire avancer les choses.
Le CIVEN n'est pas celui qui fait la loi. Donc il ne faut pas non plus se tromper de combat. Si on veut changer la loi, ce n'est pas sur le CIVEN qu'il faut taper. Il faut agir au niveau du Parlement. Il faut convaincre l'exécutif polynésien de soutenir les parlementaires dans les changements qu'on demande. Mais le CIVEN ne fait qu'appliquer la loi Morin. Je suis pour effectivement qu'on change, qu'on laisse tomber la loi Morin et qu'on adopte une loi pour un A ou voilà, avec un nom plus sympa, quoi.
concernant la demande de remboursement à la CPS de 77 milliards, énoncée par le vœu du CESEC, Muetei Broderson la soutient à 3000%.
Je la soutiens, mais à 300%, à 3000%. Je trouve que c'est totalement justifié. Maintenant, il faut, dans ce genre de dossier, travailler sérieusement. Il faut étayer les chiffres qu'on avance. Et puis, il faut aller au bout de la démarche. Parce que cette histoire de remboursement de la CPS, c'est un peu le serpent de mer qui réapparaît tous les deux ans. Et puis après, ça fait plouf. Donc, j'espère que l'actuelle direction de la CPS, j'ai aucune raison d'en douter, ira jusqu'au bout de sa démarche.
Un accord est encore loin d'être trouvé. Le CIVEN doit encore rencontrer de nombreux acteurs locaux impliqués dans l'indemnisation des victimes du nucléaire.
À noter dans vos agendas le gala de fin d'année du conservatoire.
Et ce seront 8000 élèves, petits et grands, qui monteront samedi 14 décembre sur la scène de Toata pour montrer tout ce qu'ils ont appris durant une année au sein du conservatoire artistique de Polynésie. Les arts traditionnels seront à l'honneur à partir de 16h avec du oriteiti, du ukulélé, de la guitare, des percussions traditionnelles, du himene ou encore du orero. L'entrée est évidemment gratuite pour permettre au plus grand nombre d'admirer le talent des élèves.
Et on termine avec cette triste nouvelle pour Tina Ley.
Et oui, la jeune chanteuse polynésienne était en effet engagée dans la première demi-finale de l'émission La France, un incroyable talent diffusé hier. Tina Ley avait choisi d'interpréter une chanson culte et très difficile, Le Monde est Stone. Malgré une performance parfaite, une ovation du public et les compliments de l'ensemble des jurés, Tina Ley n'a pas été retenue pour la finale du 10 décembre prochain. On espère en tout cas la revoir très vite sur scène ici. Il est 7h et presque 37 minutes. Merci d'avoir suivi le journal de la rédaction de Radio 1 et Tiare FM.